Emmanuel Gabellieri, parmi les grandes figures sur lesquelles vous travaillez depuis des années, la figure d'une philosophe, une femme, Simone Weil. Pourquoi cet intérêt pour Simone Weil, une figure finalement encore peu connue?
Alors écoutez, pour dire cela, on pourrait le dire sur le mode « il était une fois », une jeune étudiante de philosophie à la fin des années 70, qui recevait par ses professeurs, puisque j'ai fait après la terminale des classes préparatoires, donc ses études de philosophie avec des enseignants qui, à l'époque, étaient beaucoup marqués par le marxisme, les sciences humaines. Pas du tout de pensée chrétienne présente, et donc je me suis habitué à commencer à lire in petto des auteurs qui me parlaient davantage que ce que je recevais. Parmi ces auteurs, il y avait Gustave Thibon, le philosophe qui a accueilli Simone Weil pendant la guerre. Et en lisant Gustave Thibon, je découvrais qu'il citait cette Simone Weil dont on m'avait jamais parlé dans mes cours, etc. Et un jour, je me suis décidé à aller voir en direct parce que je me disais, il y a des choses géniales dans ce qu'il dit de Simone Weil, puis il y a des choses que je comprends absolument pas. Et donc, à un moment donné, comme je voyais autour de moi personne n'avoir vraiment travaillé cet auteur, je me suis dit, il faut y aller voir. Et bien, c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai été amené à faire ma thèse d'état sur Simone Weil.
Avec un titre qui nous éveille à la curiosité, le don et l'être.
Oui, alors j'ai pris ce titre parce que ce qui me frappait chez Simone Weil, c'est qu'elle échappait un petit peu à certains dilemmes de la philosophie contemporaine. On oppose volontiers les philosophies de l'être et les philosophies de l'amour. Et ce que j'ai trouvé chez Simone Weil, c'est une pensée qui est capable d'articuler les grandes racines de la métaphysique, alors c'est notamment chez elle le platonisme, et une pensée de l'amour, alors au niveau mystique, ça sera une pensée de l'amour surnaturel. Mais quand on étudie toute la pensée de Simone Weil, depuis les années 30 où elle s'engage dans la condition ouvrière, en étant encore agnostique, jusqu'à la fin, il y a ce que j'ai proposé d'appeler chez elle une analogie du don, comme on parle d'une analogie de l'être. C'est-à-dire qu'elle a toujours été dans sa pensée, dans son action, de manière soit implicite, soit explicite, dans une dynamique du don, où, que ce soit au niveau de la pensée, que ce soit au niveau de l'action, il s'agit toujours pour elle d'élever l'être au niveau du don total et du don de soi. Celui qu'elle a déjà vécu dans les années 30 par ses engagements, même s'ils nous apparaissent des engagements révolutionnaires, proches des anarchistes et des trotskistes de l'époque, mais dans une ligne qui était celle de Proudhon et que le cardinal Henri de Lubac lui-même a très bien vu. Il y avait beaucoup de christianisme implicite dans cette volonté d'aller vers les pauvres. Et donc, lorsque, après son évolution spirituelle a eu lieu, sa rencontre du Christ, eh bien, elle a vu se révéler tout ce que cet implicite contenait d'explicitement chrétien. Et ça, alors, ça nous amène au cœur de sa pensée, c'est-à-dire qu'une des choses pour moi que j'ai trouvé le plus admirable chez elle et qui n'est encore pas assez déployée pour à la fois la commenter et puis en faire profiter au-delà d'elle-même ce qu'elle peut apporter à aujourd'hui, c'est qu'elle a été amenée à théoriser un passage de la foi implicite à la foi explicite qui rejoint beaucoup ce que, par exemple, le Concile Vatican II a retrouvé à travers le langage des semences du Verbe en dehors des murs du Temple. Et ça, pour nous, c'est très précieux aujourd'hui, pour le dialogue interreligieux, par exemple, mais aussi pour le dialogue avec les incroyants. Et donc j'ai trouvé tout cela chez elle d'une manière qui ne me venait ni de l'université d'État, ni des canaux ecclésiaux que je connaissais à l'époque.
Parce qu'il y a un moment important dans la vie de Simone Weil, c'est ce moment où elle bascule dans la foi chrétienne.
Oui.
Comment vous l'expliquez?
Il y a plusieurs degrés de compréhension. Rétrospectivement, quand elle écrit son autobiographie spirituelle au Père Perrin en 42 à Marseille, elle lui dit très clairement qu'elle s'est toujours sentie chrétienne au plan moral, dès l'enfance. Elle découvre la figure de Saint François, elle est immédiatement en admiration devant la spiritualité franciscaine. Mais au sens où Saint François, c'est un idéal de pauvreté universelle, de fraternité universelle, de charité universelle, c'est le poète de la beauté du monde. Donc elle prend le christianisme comme un idéal éthique, esthétique, spirituel, mais elle est agnostique à ce moment-là. Donc c'est le plus bel idéal humain qu'on puisse avoir pour orienter sa vie. De sorte qu'elle va toujours agir, elle dira rétrospectivement, en fonction des valeurs chrétiennes. Ce qui va se passer, c'est qu'après les expériences terribles qu'elle a vécues, donc la condition prolétarienne qu'elle a voulu subir volontairement dans les années 30, bien avant donc les réformes du Front Populaire, et puis la guerre d'Espagne surtout, expérience de l'oppression et de la barbarie, elle va faire une expérience du malheur, comme elle le dira ensuite, qui va l'amener à se dire, eh bien humainement, dans certaines conditions d'existence, la nature humaine ne résiste pas au malheur, ne résiste pas à la barbarie. Et qu'est-ce qui peut répondre à ça? Eh bien, quelque chose de suprahumain. Et c'est là où elle va faire petit à petit, par différentes cette expérience, la rencontre du Christ, de manière d'abord implicite et puis après tout à fait explicite, jusqu'à cette chose inouïe qui lui arrive fin 38. Un jour, le Christ est descendu et m'a prise. Et ceci en récitant un poème qu'elle avait appris par des jeunes Anglais qu'elle a rencontrés à l'abbaye de Solesmes la semaine sainte 1938, du poète mystique anglais George Herbert. Love, c'est un poème qui, un peu dans le style de certains récits médiévaux, est un repas mystique, écrit sous forme poétique. Elle avait trouvé tellement beau qu'elle s'est dit « je vais le réciter comme un beau poème », parce qu'elle faisait ça très volontiers. Et puis, un jour, elle a compris que ce n'était pas simplement un beau poème, mais une prière, et que le Christ est venu la chercher à ce moment-là.
Emmanuel Gabelleri, quand on est passionné, comme vous l'êtes, par un auteur, par un philosophe, comment ce fil rouge se déploie-t-il dans votre propre vie, dans votre anciennement, dans votre existence ?
Alors je crois que ce qui me touche le plus chez Simone Veil, et je le vois confirmé souvent dans les rencontres que je fais de gens qui sont attirés par Simone Veil, c'est l'unité de l'existentiel, de l'intellectuel et du spirituel. Parce que ça, dans l'histoire de la philosophie, c'est rare que ça soit visible à un tel point. Et on ne peut pas lire Simone Veil sans être frappé du fait que le spirituel nourrit constamment l'intellectuel. Il n'y a pas de détachement possible. Alors ça, ben c'est vrai que c'est ce qui me touche de manière incroyable chez elle, parce que ben je crois que la pensée doit naître de la vie, doit naître de l'expérience spirituelle. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose de desséchant et d'abstrait dans la pensée et dans la philosophie. Et là, vraiment, Simone Veil nous libère de ce risque. Et en même temps, elle n'est pas passée de la philosophie à la mystique, comme le croient d'ailleurs encore un certain nombre de lecteurs ou de commentateurs ou d'historiens. Elle est restée philosophe jusqu'au bout. C'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un qui dit « le Christ est descendu et m'a prise » et qui reste philosophe après, parce qu'elle ressent que c'est une vocation de continuer à penser et à penser de manière critique. C'est d'ailleurs pour ça que, par rapport à l'Église des années 30, elle craint l'inquisition intellectuelle, elle craint que l'Église empêche la liberté de penser. Donc voilà, elle voulait garder sa liberté critique et elle l'a gardée alors même qu'elle avait une expérience supra-critique devant laquelle elle était complètement désarmée. Donc cette capacité de recevoir quelque chose que son intelligence critique ne pouvait absolument pas produire et en même temps de garder son intelligence critique jusqu'au bout pour penser les questions qui étaient angoissantes pour elle sur le salut, sur la vérité, sur le bien, la justice, etc. Ça, je trouve ça prodigieux. Et ça, c'est quelque chose qui me rejoint profondément parce que ben moi-même, en tant que philosophe, qu'enseignant, je cherche à la fois donc à enseigner, mais aussi à être en lien avec les questions sociales, avec la question politique. Vous voyez, en tant que doyen de la faculté de philosophie de la Cato de Lyon, nous sommes héritiers de la tradition du catholicisme social lyonnais. Beaucoup de philosophes lyonnais ont participé aux Semaines sociales de France, à la fondation de tout ce mouvement. Et donc pour moi, voilà, que ces philosophes aient eu un engagement socio-historique comme ils l'ont eu, c'est aussi un exemple. Et Simone Veil, même si c'était dans un autre contexte socio-culturel et sociopolitique, eh bien ça me touche de la même manière.
Pour revenir à l'expérience de Simone Veil et de son poème, elle l'a fait à Assise.
Alors, pas vraiment à Assise. En fait, ce qui s'est passé, elle dit qu'il y a trois contacts avec le catholicisme qui ont compté pour elle. Alors, en 36 au Portugal, où elle tombe un jour sur une procession de femmes de pêcheurs dans un village, et elle est tellement touchée par les chants qui sont chantés, elle ne sait pas de quoi il s'agit, qu'elle dit « j'ai compris ce jour-là que le christianisme est la religion des esclaves et que moi je ne peux pas ne pas y adhérer ». Mais ça reste quelque chose d'implicite, il n'y a pas de rencontre personnelle de Dieu à ce moment-là, il y a simplement la conviction que le christianisme est la religion qui peut rejoindre les pauvres et les opprimés. Dans certaines conditions de malheur, seul quelque chose de suprahumain peut rejoindre l'homme. L'homme ne peut pas sauver l'homme. Elle ne savait pas quelle était cette procession. Dans les années 60, le père Perrin est allé au Portugal pour vérifier, et c'était la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Et donc pour le père Perrin, évidemment, ça a été une illumination de voir que si on a été rejoint ce jour-là. Alors après l'expérience de 36 au Portugal, il y a eu l'expérience d'Assise en 37, où là, elle rêvait donc d'aller au pays de Saint-François, comme on l'a dit dans son enfance, c'était une figure qui l'a marquée. Elle rentre dans la petite chapelle Santa Maria degli Angeli, et là, elle écrit « Quelque chose de plus fort que moi m'a obligé à me mettre à genoux ». Mais là encore, ce n'est pas une rencontre personnelle. On est dans une phase où il y a une présence implicite de Dieu, mais pas en personne. Troisième expérience, c'est en 38. Elle va vivre la Semaine Sainte à Solesmes. Parce que comme elle adorait le chant grégorien, elle s'était habituée, même dans les années révolutionnaires des années 30, à aller dans les abbayes écouter du chant grégorien. c'est assez extraordinaire. Donc elle va à Solesmes et là, elle vit toute la Semaine Sainte et elle écrit au Père Perrin la pensée de la passion du Christ est entrée définitivement en moi, comme la rejoignant dans son expérience et son itinéraire personnel. C'était pas encore une rencontre directe du Christ. Cette rencontre va avoir lieu quelques mois après. On ne sait ni le jour ni l'heure. Elle n'en a jamais témoigné directement. Elle en a juste témoigné indirectement avec cette phrase « Le Christ est descendu et m'a prise » un jour où je récitais le poème « Love » de George Herbert. Et là, alors, c'est une rencontre mystique directe dont tous ses écrits après ne vont cesser de témoigner, mais souvent de manière cachée, indirecte, à travers des textes allégoriques comme le fameux texte « Le Prologue » qui est un repas mystique où on s'aperçoit qu'après la rencontre, il y a un repas, mais beaucoup plus froid dans les apparences et le disciple est chassé pour repartir en plein monde. On peut penser que dans son itinéraire, ce texte est une manière de dire « Ben voilà, j'ai vécu cette rencontre, mais si c'est un privilège que je garde pour moi, c'est la trahison de ce que j'ai reçu. En fait, ma vocation, elle est dans le monde. » Elle dit « Elle est dans un hall de gare, elle est dans un salon où je peux causer avec n'importe qui. » J'ai vraiment l'appel chez elle, toujours, que ce qu'elle recevait, c'était pour le donner, pour le transmettre. Et on le retrouve dans son engagement social comme dans son expérience mystique.